Et les matins débutent avec le journal de Bénédicte Robin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Guillaume Erner, bonjour à toutes et à tous. La rentrée sous Covid à l'université, ce sera par groupe de 10 pour certains élèves seulement et au compte-gouttes malgré la lassitude et les risques de plus en plus importants de décrochage. Plus vite dans la course au vaccin, promet le gouvernement face aux critiques et après quelques centaines d'injections en une semaine. Mais ce ne sera pas sans garde-fou pour satisfaire les méfiants. Un collectif citoyen va être mis en place.
Et puis il avait été à l'origine de la fuite de milliers de documents classifiés. Il risque 175 ans de prison aux États-Unis. Julian Assange saura aujourd'hui si la justice britannique consent à son extradition. Berlin s'en émeut.
Des associations de policiers dont la parole est parfois radicale et hors de contrôle, ça pose question et interroge même les syndicats. C'est le reportage de la rédaction ce matin à 7h25. Et la question du jour aujourd'hui, Guillaume ?
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Bénédicte, on reviendra sur le Brexit. Le Brexit, concrètement, que va-t-il changer ?
La rentrée sur convocation pour les étudiants à l'université l'année 2021 commence comme elle s'est terminée, soumise à la contrainte sanitaire du Covid et en ordre dispersé. Seuls quelques étudiants vont pouvoir revenir physiquement en cours. Les plus fragiles, ceux de première année, ceux qui sont en situation de handicap, les étrangers ou encore ceux qui ont des difficultés matérielles et numériques qui les empêchent de suivre à distance. Ils recevront donc une convocation. Pour les autres, il faudra continuer à prendre son mal en patience, Laurine Benjebria.
Depuis mars, Alexis n'a pu se rendre en cours que 2 mois. C'était cet automne pour sa première année à Sciences Po Lille.
J'ai mes partiels en distanciel, j'ai pas vraiment l'impression d'être prêt.
Difficile de se motiver car confiné chez ses parents à Arras avec une date de reprise des cours en présentiel estimée à février pour les demi-groupes et en travaux dirigés.
C'est un peu dur de l'aborder de manière positive, là, cette reprise encore en distanciel. C'est un petit peu démoralisant de toujours voir cette échéance de reprise être décalée.
En attendant, Alexis enchaîne les cours sur son ordinateur, le moral en berne.
J'ai du mal à voir la différence entre les heures de travail et les heures à la maison, puisqu'en fait, on est toujours devant notre écran, ça fait mal à la tête.
Pour éviter un décrochage massif, les cours par groupe de 10 autorisés, mais seulement pour les étudiants jugés les plus fragiles. Un choix incompréhensible selon Olivier Hersheid, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et à l'IUT de La Roche-sur-Yon.
Il y a des étudiants qui sont en situation de rupture familiale, qui vivent dans des conditions financières extrêmement précaires. Et là, on nous demande de faire un espèce de choix qui n'a aucun sens, ni pédagogique, ni humain, ni même administratif.
Olivier Hersheid va donc profiter de l'exception des travaux pratiques autorisés en présentiel pour organiser dès demain une semaine de cours pour tous ces étudiants, pas seulement les premières années.
Pour reprendre semblant de vie sociale universitaire et étudiante. Le décrochage universitaire, c'est même plus l'enjeu principal. La détresse psychologique, on n'a jamais été à de tels niveaux.
Détresse observée par la permanence d'écoute pour les jeunes Nightline. À l'annonce du deuxième confinement, ces appels ont explosé de 40%.
Laurine Benjebria, la rentrée est en revanche normale pour les plus jeunes. Les enfants vont à l'école comme prévu, a confirmé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, même s'il y a une certaine inquiétude du côté du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Inquiétude concernant les conséquences des fêtes de fin d'année et des réunions de famille qui vont se faire sentir dans les prochains jours. Inquiétude aussi sur les variants repérés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et détectés en France. Ils sont plus contagieux et toucheraient plus les jeunes. Au Royaume-Uni d'ailleurs, les écoliers ne feront pas leur rentrée aujourd'hui dans les régions les plus touchées, dont la capitale, Londres. Le Royaume-Uni qui commence aujourd'hui la vaccination avec le vaccin du laboratoire AstraZeneca, moins cher et plus facile à transporter que celui de Pfizer-BioNTech, avec lequel les Britanniques ont tout de même vacciné déjà plus d'1 million de personnes. 1 million contre quelques centaines en France en une semaine. L'exécutif est vivement critiqué pour sa lenteur et va accélérer la cadence, promet-il, à compter d'aujourd'hui et à commencer par les soignants et avec finalement aussi l'ouverture prochaine de centres de vaccination. Mais dans le même temps, il s'agit toujours de contrecarrer la défiance d'une majorité de Français vis-à-vis de ce vaccin. Le gouvernement a donc décidé de créer un collectif citoyen, 35 Françaises et Français tirés au sort pour évaluer la campagne vaccinale, Maxence Lambrec.
Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, va ressortir ce matin son annuaire et y piocher au hasard des milliers de numéros de téléphone comme ils l'avaient fait avant la Convention climat. Toutes ces personnes devront alors donner leur âge, région, leur niveau de diplôme, catégorie socioprofessionnelle et type d'habitation, puis répondre à une question sur la vaccination. Le président du CESE, Patrick Bernasconi.
On va leur demander eux-mêmes de se qualifier sur une échelle de 1 à 5, 1 étant les contre, 5 les pour, ce qui va permettre d'avoir une représentation des différentes sensibilités de la société française.
Au sein de ce panel, entre ces 35 citoyens, les débats devraient donc être animés, certains en visioconférence, d'autres au siège du CESE à Paris. Et alors que la campagne de vaccination a l'air de s'accélérer en France, l'impatience grandit.
On ne va pas attendre le mois de juin pour dire ce qu'on pense de telle ou telle chose. L'idée, c'est d'être dans quelque chose d'assez réactif qui permette d'avoir très vite des prises de position. Il faut que fin janvier, début février, tout ceci fonctionne.
Audition de ministres, de médecins, recherche de chiffres, d'études, prises de parole publiques pendant toute la durée de vaccination. Et en parallèle, le CESE met en place sa propre commission et un site internet pour recueillir les attentes des Français à ce sujet.
Maxence Lambrec.
7h06. Sur France Culture, la suite du journal de Bénédicte Robin, il incarne l'un des symboles de la liberté d'informer et son avenir se joue aujourd'hui.
Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, saura ce matin si la justice britannique accède à la demande américaine de l'extrader vers les États-Unis où il encourt 175 ans de prison pour avoir publié plus de 700 000 documents classifiés sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Mais l'Australien de 49 ans, emprisonné au sud-est de Londres depuis 2019, présente des troubles psychiatriques. Ses conditions de détention ont même été dénoncées par l'ONU. Et aujourd'hui, l'Allemagne prend sa défense à Berlin. Ludovic Piétenu.
Berlin rappelle au Royaume-Uni que même après le Brexit, le pays reste lié à la Convention européenne des droits de l'homme. Bärbel Köffler, commissaire allemande aux droits de l'homme et à l'aide humanitaire, dans un communiqué au ton poli mais ferme, demande à Londres de prendre en compte impérativement l'état de santé physique et mentale de Julian Assange au moment de décider de cette extradition. Car sa santé s'est dégradée. Je suis avec inquiétude, écrit-elle, cette procédure. On ne néglige pas dans une extradition les droits de l'homme et les aspects humanitaires. Ce commentaire du gouvernement fédéral allemand est une première et il s'ajoute à la mobilisation de députés du Bundestag de presque tous les partis représentés. Il considère que c'est aussi la liberté de la presse qui est en jeu au travers de cette future décision. S'il est condamné, cela peut arriver à n'importe quel autre journaliste, plaide la députée de gauche Die Linke, Sevim Dagdelen, qui avec sa collègue Heike Hensel suivent cette procédure d'extradition depuis le début avec la création d'un groupe de travail Liberté pour Julian Assange. En raison de la pandémie de coronavirus, ces deux députés allemandes se sont vus refuser l'accès au tribunal londonien ce matin, au moment où le verdict sera prononcé.
Il devrait être prononcé à partir de 11h, mais quel que soit le choix de la Cour, les deux parties pourront faire appel. Restons outre-Manche pour évoquer cette fois le Brexit, officiellement entré en vigueur depuis 3 jours et qui signifie la fin de beaucoup de choses, comme la liberté de circulation et d'installation dorénavant pour venir s'installer et travailler en Angleterre. Il faudra avoir un contrat de travail, un salaire minimum pour espérer obtenir les 70 points nécessaires au nouveau visa. Autant dire que le hasard et les belles opportunités, c'est du passé. Et donc, l'expérience de ce Français que vous avez rencontré, Marie-Pierre Véraud, ne serait plus possible aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle David Roulant.
David Roulant et Londres, c'est une histoire d'amour. Arrivé en 1991 pour apprendre l'anglais, il tombe sous le charme de la capitale, rencontre sa femme. Et l'aventure, qui devait durer 6 mois, se poursuit depuis 30 ans. C'était l'époque bénie où les étrangers pouvaient venir avec 3 francs 6 sous en poche.
On rentrait dans un établissement où on pensait, oh, tiens, il y a peut-être un boulot ici. On demandait à parler avec le manager, est-ce que vous avez besoin de personnel? Et souvent, il disait oui. Et on commençait le lendemain.
Ouais. Pas besoin d'avoir un contrat de travail, un salaire minimum et un bon niveau d'anglais, comme c'est le cas depuis l'entrée en vigueur du Brexit. David enchaîne les petits boulots dans la restauration, à la City, majordome, croupier. À la naissance de son fils, il décide de devenir son propre patron. Il passe alors le permis de taxi londonien si réputé et organise des visites privées de Londres dans son black cab.
Et on y va, on va faire un petit tour.
On a Hyde Park à droite, Parc Royal.
Cette fermeture aux étrangers avec le Brexit, c'est une erreur, pense-t-il, parce que l'immigration est aussi une richesse.
Je pense avoir contribué à l'économie du pays, d'avoir créé un business, de payer des impôts, de faire de la promotion en fait, du Royaume-Uni maintenant dans mon boulot. Et je pense que mon expérience, ça va être très dur à quelqu'un qui va arriver dans les prochaines années, de faire la même chose en fait.
Marie-Pierre Véraud à Londres avec Fabien Gosset. Joe Biden et Donald Trump vont en Géorgie aujourd'hui. Le président élu et le président sortant des États-Unis vont soutenir leurs candidats respectifs pour la double élection sénatoriale décisive. Et cela au lendemain de la publication d'un appel téléphonique édifiant de Donald Trump aux responsables de l'élection présidentielle en Géorgie pour lui demander de trouver des bulletins en sa faveur. Quand une affaire de squat divise au sein même de la majorité municipale à Paris, il s'agit de l'occupation d'un local vide du 10e arrondissement. Un collectif associatif s'y est installé depuis le mois de novembre. Mais le locataire, à savoir le propriétaire du restaurant Le Petit Cambodge, veut le récupérer. Il a donc porté plainte. La décision doit être rendue aujourd'hui. Mais au-delà de la question d'une éventuelle expulsion, c'est plus largement l'enjeu des locaux et des logements vides que cette occupation pose, Thomas Larabi.
Derrière les vitres calfeutrées et les tags multicolores, un collectif d'associations écologistes et antiracistes installés depuis fin novembre pour venir en aide aux nécessiteux selon eux et surtout lutter contre la gentrification du quartier. Mais le but n'est pas atteint selon la maire PS du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar.
C'est pas en occupant un local commercial, par ailleurs loué par quelqu'un, qu'on lutte contre la gentrification. Quelles que soient les causes, et je suis sûre que j'en partage certaines, l'outil pour les porter n'est pas efficace, il est même un peu contre-productif parce qu'il a créé de dissensus dans le quartier entre les habitants.
Son de cloche quelque peu différent du côté de l'adjoint à la mairie de Paris et écologiste David Béliard. S'il souhaite aussi que le Petit Cambodge récupère son local, il ne condamne pas pour autant ce type d'occupation, d'autant que ce local est la propriété d'un bailleur social de la ville de Paris.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment un bailleur de la ville ait pu laisser ce local sans proposer ce qu'on appelle une convention d'occupation précaire, c'est-à-dire permettre à une association, un collectif, d'occuper ce local en attendant qu'il retrouve la fonction qui lui était attribuée, c'est-à-dire en l'occurrence là devenir un restaurant. Et ce qui, dans une ville comme Paris, est essentiel pour justement ne pas laisser des locaux vides, alors que des associations, mais aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ont besoin de locaux à meilleur marché que ce qui est proposé aujourd'hui.
Le Petit Cambodge, de son côté, souhaite récupérer un local pour lequel il paye un loyer depuis 5 ans et espère rapidement ouvrir ce nouveau restaurant qui devrait générer une vingtaine d'emplois.
Thomas Larabi, la représentativité des policiers en question alors que le Beauvau de la sécurité doit s'ouvrir en ce début d'année. On se pose la question ce matin sur France Culture de cette représentativité, en particulier des associations de policiers hors syndicat qui ont parfois des discours radicaux. Michel Toris est le secrétaire général du syndicat France Police, syndicat minoritaire proche de ces associations.
On va pas se mentir, elles sont totalement borderline. Elles ne rentrent pas dans le jeu du dialogue social, donc elles peuvent effectivement avoir une communication extrêmement percutante, ce qui n'est évidemment pas possible pour une organisation syndicale comme la nôtre, où nous on est très finalement attentif à respecter à la lettre, si vous voulez, la liberté d'expression dont on peut bénéficier dans le cadre de notre mandat syndical, sans en déborder pour des raisons simples, avec un risque dissolution qui serait de l'organisation ou des ennuis sur le plan personnel, ce qui n'est pas le cas évidemment des associations. En plus, certaines d'entre elles sont tenues par des collègues, d'anciens collègues, donc qui présentent évidemment moins de risques, si vous voulez, sur le plan juridique qu'un syndicat.
La représentativité des policiers, c'est le reportage de la rédaction ce matin. Rendez-vous aux environs de 7h25.
À la météo, un peu de neige aujourd'hui, du nord au centre, des orages ce matin sur le Pays Basque, un peu de soleil cet après-midi. Tout cela dans une atmosphère bien fraîche, moins de...